Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et ce matin, nous allons regarder le psaume 62. Et Dieu voulant, dimanche prochain, nous reprenons notre étude de la lettre aux Hébreux. Mais ce matin, donc, regardons le psaume 62. Et voici donc la parole de Dieu au chef des chantres, d'après Jedutun. Psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme, chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, sont en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence, ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Et c'est la parole de Dieu. Alors commençons par une image que vous avez peut-être déjà vue, une image de grimpeurs, d'alpinistes, de montagnards qui partent pour gravir les sommets les plus hauts. Et à certains moments, ces grimpeurs savent que leur vie repose sur un seul support. Le poids de leur corps peut dépendre uniquement de la force, de la solidité d'une corde pour les soutenir. Ils peuvent dépendre de la capacité d'un guide pour les mener vers des falaises solides. Ils feront confiance à la prédiction et la précision d'un bulletin météo. Ils vont tirer toute leur force sur une seule poignée qui est fixée dans le rocher. Et les grimpeurs sont conscients non seulement qu'ils font confiance à un seul support, mais aussi que le support pourrait leur faire défaut. La corde peut se rompre, le guide peut se perdre, le temps peut devenir mauvais ou le rocher peut céder. Cette incertitude est ce qui procure le frisson dans l'escalade, mais c'est aussi ce qui remplit les journaux qui vont relater à la fois les exploits triomphants de ces grimpeurs, mais aussi les chutes tragiques. Et alors que David considère les défis de sa vie, il est comme ces grimpeurs qui escaladent les sommets, en ce sens qu'il sait que sa vie ne dépend que d'un seul soutien. Mais comme David cherchait la sécurité plutôt que l'excitation, il se réjouit de savoir que son espoir est fixé sur Dieu seul, qui n'échoue jamais. Il s'écrit au verset 3, « Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. » Un commentateur dit, nous ne trouvons nulle part une foi en Dieu plus noble, plus victorieuse, plus triomphante. La vanité de l'homme, de la force et des richesses humaines plus clairement confessées. Et le courage au milieu du péril plus calme et plus inébranlable que dans ce psaume. Et dans ces versets, David célèbre sa sécurité en Dieu, son rocher. Et il se résout à faire confiance à Dieu seul, à Dieu toujours, et de faire confiance à Dieu et non à l'homme. Et ce sont les trois points de notre message ce matin. Tout d'abord, faire confiance à Dieu seul. Dans d'autres psaumes, David écrit, comme il le fait ici, qu'il est assailli par des hommes violents, des hommes qui sont sans scrupules, qui cherchent à le détruire. Verset 4, il adresse sa plainte. « Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. » Et puis il va les condamner, verset 5. « Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche. Ils maudissent dans leur cœur. » Les ennemis de David sont des brutes typiques qui sont enthousiastes à donner des coups de pied à quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui ressemble à un mur qui penche, une clôture qui est sur le point de céder. Ces hommes sont réunis pour démolir tous ceux qui sont admirés. Non seulement ils ont pratiqué la tromperie, mais ils ont pris plaisir à le faire. Ils ont obtenu la confiance avec des mots doux, alors que leur intention réelle était mauvaise. On se souvient des adversaires du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui ont si ardemment insulté sur la croix, qui n'ont pas hésité à arranger des mensonges diffamatoires dans le but de le faire descendre de la croix. Dans les psaumes précédents, David aurait pu répondre à ses ennemis avec une longue dénonciation ou avec une prière demandant l'aide de Dieu. Et dans ce psaume 62, il parle de sa confiance qu'il a en Dieu. Un commentateur note ceci, il n'y a guère d'autres psaumes qui révèlent une paix aussi absolue et intacte, dans laquelle la confiance en Dieu est si inébranlable, dans lequel l'assurance est aussi forte que pas une seule requête n'est exprimée dans ce psaume. Pas une seule requête. En utilisant des termes qui sont familiers à ces psaumes, David se réjouit de se référer à Dieu comme « mon rocher, mon salut, ma forteresse ». Pour arriver à cette conclusion, je ne chancellerai guère. Lorsque nous sommes confrontés à des attaques de toutes sortes, on a des options pour honorer Dieu quant à la façon de réagir. Et dans ce psaume, David prend la grande voie, la foi absolue dans le Seigneur, afin de louer son nom. La clé de cette paix extraordinaire, de cette confiance que David manifeste, se trouve dans un mot que malheureusement notre traduction n'a pas retenu, même si le sens est présent. Et ce mot, c'est le mot « seul ». Et on le retrouve en réalité 6 fois. Au verset 2, « Oui, c'est en Dieu seul que mon âme se confie ». C'est en Dieu seul ou c'est pour Dieu seul que mon âme attend en silence. Dans les versets 3 et 7, c'est lui seul qui est mon rocher et mon salut. Au verset 6, mon âme, confie-toi en Dieu seul. Ce mot apparaît aussi différemment. Au verset 5, il conspire seulement pour le précipiter de son poste élevé. Et au verset 10, dans une balance, il montrait tous ensemble plus léger ou seulement un souffle. David est délivré de la peur parce qu'il a mis sa confiance en Dieu seul. Et en Dieu, il trouve un refuge qui est tout à fait suffisant. Son esprit ne demeure pas sur sa propre force ou sa faiblesse, sur les stratagèmes des méchants ou sur ses circonstances difficiles. Non, il pense plutôt à Dieu. et son âme, son cœur se calme, trouve la paix. Le commentateur écrit ceci, c'est quelque chose que les chrétiens de nos jours ont particulièrement besoin d'apprendre. Selon moi, notre problème n'est pas que nous ne faisons pas confiance à Dieu, du moins dans un certain sens. Nous devons le faire pour être chrétiens. Pour devenir chrétien, vous devez au moins faire confiance à Dieu en matière de salut. C'est plutôt que nous ne faisons pas confiance à Dieu seulement. Ce qui signifie que nous voulons toujours ajouter quelque chose d'autre à laquelle nous pouvons faire confiance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent des réponses à leurs problèmes, non pas dans la Bible, non pas par la prière, mais dans les solutions humaines. Ils dépendent d'expériences mystiques, de conseils psychologiques, de techniques d'entraide, sans parler de l'argent, des plaisirs, des relations avec les autres. Alors bien sûr, on doit veiller à ne pas exclure les sources légitimes d'aide lorsqu'elles sont nécessaires, comme le soin d'un médecin quand on est malade, ou les services pour nous aider à trouver un emploi quand on en a besoin. Mais lorsqu'il s'agit de notre sécurité de base dans la vie, de la provision pour nos besoins réels, de la paix intérieure qui est nécessaire pour le bonheur, le croyant ne doit pas faire confiance aux sources de ce monde, mais il doit compter sur Dieu seul, notre rocher, notre salut. La nécessité de ne compter que sur Dieu est critique dans les églises. Dieu a donné à son église tout ce dont elle a besoin pour la bénédiction spirituelle, pour la croissance, dans les moyens ordinaires de la grâce, la parole, la prière, la scène, le baptême. Alors pourquoi tant l'Église se tourne-t-elle vers un culte qui est axé sur le divertissement, qui supprime le contenu théologique de la musique, même des messages, qui cherche à obtenir l'approbation du monde par des anecdotes humoristiques ou des techniques d'entraide? La réponse, c'est qu'ils ne sont pas prêts à faire confiance à Dieu seul. Si on compte vraiment sur le Seigneur pour faire grandir, pour renforcer notre Église, pour renforcer les membres individuellement, alors on cherchera à servir Dieu à la manière de Dieu, en se concentrant sur l'enseignement de sa parole et sur la prière. Même si les méthodes du monde peuvent réussir à remplir l'Église, à remplir les comptes bancaires de l'Église, ce n'est pas la même chose que de servir fidèlement le Seigneur Jésus qui bâtit son Église. Les réformateurs protestants du XVIe siècle ont exprimé leur confiance en Dieu seul avec une série de devises qui se concentrent sur ce même mot « seul ». La première expression, « sola scriptura », l'écriture seule. Ce principe stipule que si on fait confiance à Dieu seul pour le salut, alors on doit tirer notre message et nos méthodes strictement de la Bible, qui seule est la parole révélée de Dieu à l'homme. Et à cette expression s'ajoutent d'autres déclarations qui font référence à la manière dont Dieu sauve, sola fide, sola gratia et solus Christus. Ces expressions disent que nous sommes justifiés par la foi seule, par la grâce seule et en Christ seul. La clé dans chaque cas, c'est le mot seul. Si on enlève ces solas de l'Évangile, alors on finira par avoir confiance au moins en partie en l'homme, en nous-mêmes, avec pour résultat que l'on va compromettre la possibilité même de la délivrance divine. Mais selon la Bible, notre justice ne résulte pas de notre propre performance, elle résulte seulement de l'œuvre de salut du Seigneur Jésus-Christ. On reçoit son salut par la foi seule, en dehors de toute œuvre de notre part, par la grâce de Dieu seul, en dehors de tout mérite de notre part, seulement par le mérite du Seigneur Jésus-Christ, en notre nom. Ce n'est que de cette manière que le croyant peut se tourner vers Dieu pour la délivrance et dire avec David, « Oui, c'est lui seul qui est mon rocher. Lui seul qui est mon salut. » Charles Spurgeon écrit, « L'homme qui croit au Seigneur Jésus-Christ seul est un homme sauvé, et tant qu'il ne repose que sur lui, sa paix coulera comme une rivière profonde, large et de plus en plus volumineuse. Mais dès qu'un croyant commence à regarder de travers et à tourner la moitié d'un œil vers un autre médiateur, adieu son confort. Il y a des taches dans son soleil, la lèpre se glisse sur son corps et vient entacher sa beauté. Et toutes les fleurs de sa joie et de son espérance commencent à dépérir. Mais c'est aussi en faisant confiance à Dieu seul pour le salut que l'on peut ajouter la dernière consolation de la réforme, soli Deo gloria. À Dieu seul soit la gloire. Ce sont les croyants qui ne font confiance qu'à Dieu seul et pas du tout à l'homme, qui sont alors capables de donner à Dieu la gloire qu'il mérite dans notre salut, c'est-à-dire toute la gloire. Sans aucun crédit, sans aucune vantardise laissée à nous-mêmes. David insiste au verset 3. Oui, c'est lui seul. C'est lui seul qui est mon rocher, mon salut. Cette section se termine avec ce cela, cette pause. Faire confiance à Dieu seul. Cela nous amène à la deuxième section, le deuxième point. Faire confiance à Dieu toujours. À partir du verset 6, David répète les thèmes des versets 2 et 3. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. » Il redit ces lignes d'ouverture, il exhorte son âme à s'attendre, à se reposer en Dieu. On trouve ici ce qui pourrait être écrit comme le témoignage de David dans sa vie. Il est sauvé en attendant le salut de Dieu et en fixant son espoir sur lui seul. David a l'intention de gravir sa montagne, de surmonter ses obstacles en s'appuyant exclusivement sur le Seigneur. Dieu seul est son rocher. Dieu seul est son salut. Est une forteresse pour garder son âme en sécurité. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 22, les versets 2 et 3, David souligne que ces thèmes sont primordiaux dans sa vie. Il dit ceci de Samuel 22, verset 2, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. » La répétition de l'appel de David à son âme, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie », nous rappelle que nous devons agir pour amener nos cœurs à croire, à nous reposer en Dieu, dans ce salut qu'il nous a offert en Jésus-Christ. David sait que la confiance patiente en Dieu se traduira par une bénédiction. Il fait appel à son âme avec des désignations bibliques pour Dieu. S'il n'a pas automatiquement atteint la paix de l'esprit, mais qu'il a besoin de s'adresser à l'état de son âme, alors nous aussi, nous allons être amenés à le faire. Le cœur de David faisait confiance au Seigneur, mais il fallait qu'il amène son âme à se reposer en silence, comme le note Jean Calvin, jusqu'à ce qu'il eût mortifié chaque inclination charnelle et qu'il se soit complètement soumis à la volonté de Dieu. Comme David, le croyant qui vit dans ce monde turbulent et mauvais, n'atteindra pas la paix et la joie sans exercer notre esprit avec diligence dans les vérités de la parole de Dieu, en amenant nos âmes à nous reposer, à attendre le Seigneur en silence. Dans cette deuxième section, David développe le thème des premières lignes et il rajoute au verset 8 « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge sont en Dieu. » Et David raisonne, il raisonne de la manière suivante « Si Dieu est mon salut, qui peut vaincre Dieu pour me détruire ? Si Dieu est ma gloire, qui m'accusera ou qui me fera honte ? Si Dieu est mon rocher, quelle tempête peut secouer mon sang-froid ? Si Dieu est mon refuge, quelle arme peut m'atteindre ? Quelle arme peut me faire du mal ? La détermination de David montre quelle différence cela fait en tant qu'un croyant fixe les regards uniquement sur Dieu. Si on compte sur l'argent, sur une réputation mondaine, sur un poste élevé ou sur d'autres ressources terrestres, alors on ne pourra jamais avoir la paix que David, dont parle David ici. Ces choses seront un jour perdues ou enlevées. Mais si on remet tout ce que l'on est, tout ce que l'on espère entre les mains de Dieu, le croyant entre dans la paix d'une parfaite sécurité. La deuxième strophe se termine par le témoignage de David à ses frères croyants, où il les exhorte non seulement à avoir confiance en Dieu et en Dieu seul, mais aussi à avoir confiance toujours en Dieu. Verset 9, « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. » La stratégie de David n'est pas celle qui obtient la paix intérieure seulement dans quelques épreuves. Au contraire, en faisant confiance à Dieu seul et en menant nos âmes à se soumettre aux vérités de la parole de Dieu concernant le salut, on obtiendra toujours l'espérance, l'assurance de la part de Dieu. Et ce que David expérimente ici, il peut toujours le recevoir. Ce que Dieu a fait pour lui, il le fera encore pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Les chrétiens ne sortent jamais diplômés de l'école de la parole de Dieu. Ils ne vont jamais au-delà de la nécessité de mettre leur confiance dans le Seigneur, de s'attendre à lui. Et comme David le voit, la preuve de notre confiance se voit dans la fréquence, la ferveur de nos prières. Il rajoute au verset 9, « Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Répandre son cœur devant Dieu signifie lui dire tout ce qui nous trouble, tout ce qui est sur notre cœur. David veut que son cœur repose non seulement sur Dieu, mais aussi qu'il s'ouvre à Dieu. Comme le dit un commentateur, nous lui disons tout ce qui est dans notre cœur, qu'il s'agisse de nos fardeaux, de nos peines, de notre honte, ou de notre joie et de notre bonheur. S'il est difficile d'ouvrir notre cœur dans la prière à Dieu pendant les grandes épreuves, pendant les moments de détresse, David nous montre que l'on doit d'abord porter à notre esprit les grandes images de Dieu, comme notre Sauveur, notre fidèle protecteur. Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix pour nos fautes. Et combien peu nous apprécions l'amour de Dieu pour nous, avec la triste réalité que très souvent nos cœurs sont fermés à lui. L'apôtre Jean nous donne la bonne approche dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 4, verset 16. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Est-ce que nous comptons sur l'amour de Dieu comme il l'a prouvé sur la croix à Golgotha? Au lieu de penser que Dieu doit en quelque sorte être indifférent ou mécontent de nous, on doit se rappeler comme David qu'il est notre salut, notre gloire. Et alors, quand on déverse nos cœurs à Dieu dans la prière, son amour nous fortifie avec la paix, avec le réconfort pour pouvoir endurer la tempête. La première section du psaume nous dit qu'il faut ne faire confiance qu'à Dieu seul. La deuxième section nous conclut en nous exhortant à toujours faire confiance à Dieu. Les derniers versets nous exhortent à faire confiance à Dieu plutôt qu'à l'homme. Verset 10, « Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. » Une autre version dit ceci, « Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble ne sont que déception. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous, moins que rien. » Et le troisième point donc, faire confiance à Dieu et non à l'homme. Et dans ce verset 10, David considère l'homme, mais quelle que soit sa situation, l'homme ne mérite pas qu'on lui fasse confiance. David imagine une balance à l'ancienne où l'homme est placé sur un plateau d'un côté et nos épreuves sont placées sur l'autre plateau. Et le plateau de la force humaine s'envole vers le haut, totalement incapable d'équilibrer nos afflictions. Et lorsque les hommes sont mis sur les deux plateaux, comme il le dit, ils montraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Le point n'est pas que l'homme est incapable de faire quoi que ce soit, mais plutôt que ce que l'homme peut faire est totalement insuffisant pour répondre aux besoins de l'âme. Un commentateur dit ceci, le point alors n'est pas tant que nous n'avons rien à craindre de l'homme, mais que nous n'avons rien à espérer de lui. Le vrai contraste de David n'est pas entre l'homme et nos besoins, mais entre l'homme et Dieu. En pensant à Dieu comme notre rocher, David se rend compte que l'homme est une corde qui est effilochée. Il fournit ainsi ce que l'on pourrait appeler la théologie de la bascule. Une bascule, c'est un appareil de jeu pour les enfants. Un enfant va s'asseoir à chaque extrémité, il monte, il descend, quand un est en haut, l'autre est en bas. Et la théologie de la bascule dit que notre vision de Dieu est inversement liée à notre vision de l'homme. Quand l'un est en haut, l'autre est en bas. Et on voit l'influence de cette pensée parmi les chrétiens libéraux qui admirent les conceptions morales de la culture moderne, mais qui pensent très peu aux commandements de la Bible. On voit aussi cette bascule chez ceux qui mettent leur confiance dans les œuvres humaines pour le salut et qui, par conséquent, minimisent la suffisance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors que la parole de Dieu nous enseigne à élever notre estime de Dieu tout en nous humiliant dans notre attitude envers l'homme, nous devons faire confiance à la parole de Dieu et pas aux idées de l'homme, comme Wayne nous l'a rappelé dans la lecture de Éphésiens chapitre 5. Nous devons nous glorifier dans la majesté de Dieu, plutôt qu'à être impressionnés par le faste, par l'orgueil humain. Nous devons mettre notre confiance dans la grâce de Dieu, plutôt que dans l'ingéniosité de l'homme. Et c'est ce que fait David dans ce psaume 62. Ce n'est pas seulement qu'il dénigre l'homme comme une source de salut, mais plutôt parce qu'il a pensé à combien Dieu est grand, combien Dieu est suffisant pour nous sauver. Il réalise que l'homme n'est pas du tout capable de le sauver. David désire que Dieu soit exalté dans notre confiance, dans notre estime, avec le résultat correspondant que nous voyons l'homme comme incapable de faire le travail, le dur travail nécessaire pour notre salut. Un commentateur explique ce que cela signifie pour notre confiance, notre sentiment de confiance ultime. Il dit ceci, « Les gens nous laisseront toujours tomber, ils sont pécheurs, comme nous. On ne peut pas leur faire confiance. » Mais même s'ils pouvaient l'être, ils sont toujours qu'un souffle. Et ils sont rapidement enlevés ou partis. Si Dieu vous a donné des amis fidèles et bons ou un compagnon de vie aimant, remerciez-le. C'est un grand cadeau. Mais ne placez pas votre espoir le plus profond dans l'être humain. Faites plutôt confiance à celui qui est éternel et immuable. Et vous ne serez jamais ébranlés lorsque les gens vous décevront. Et s'il est vrai que l'homme à son meilleur n'est pas capable de sauver, il est encore plus vrai que l'homme à son pire devrait être évité. Et David le dit au verset 11, « Ne vous confiez pas dans la violence, ne mettez pas un vain espoir dans la rapine quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Nous devons rejeter nos propres stratégies pécheresses, parce qu'elles ne nous sauveront jamais. Elles nous mèneront vers plus de folie, plus de problèmes. Au lieu de faire confiance à l'homme, au lieu de tolérer le péché, David tourne à nouveau son regard vers Dieu. Et il écrit au verset 12, « Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. » À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends chacun selon ses œuvres. En disant, Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci, David souligne l'importance fondamentale de ce principe qui exalte Dieu. Cette expression est équivalente à la parole du Seigneur Jésus-Christ. En Jean 1, 51, par exemple, où il dit, « Oui, je vous l'assure, je vous le dis. » Dieu a dit quelque chose d'assez important que David a eu besoin de revenir et de s'en rappeler. Quelle est cette vérité fondamentale? C'est la puissance de Dieu. C'est son amour inébranlable pour ceux qui ont confiance en lui. Souvenez-vous, dit David, que Dieu est à la fois capable et disposé à sauver tous ceux qui l'invoquent. La force est à Dieu. Il n'y a donc aucun poids qu'il ne puisse soulever, aucune circonstance qu'il ne peut enlever, aucune attaque contre laquelle il ne puisse défendre. La force est à Dieu. Et en disant aussi que Dieu montre la bonté, David emploie ici le grand mot de l'Ancien Testament pour la fidélité de Dieu à son alliance. C'est ce fameux mot « chesed ». Et ce mot est traduit en français par une effusion de termes. Ça peut être traduit par être constant, inébranlable, ferme, indéfectible, résolu, solide, fidèle, la miséricorde fidèle, l'amour de l'alliance. Cela signifie que Dieu est certain d'accomplir sa promesse de miséricorde, que son amour est inébranlable pour tous ceux qui lui appartiennent par la foi en Jésus-Christ. Et David souligne ainsi ces attributs de Dieu, parce que sans eux, on ne peut espérer le salut. Si Dieu n'est pas tout-puissant, s'il n'est pas omnipotent, alors il peut y avoir une menace pour notre salut qui est trop forte pour qu'il ne résiste, un problème trop grand pour qu'il le résolve. Dieu doit posséder toutes les forces pour nous sauver. Mais si Dieu est fort, il doit aussi avoir la volonté de répondre à nos appels de salut, au salut. Dieu doit avoir pitié. Il doit être fidèle aux promesses de l'Évangile. Avec une seule de ses vertus et pas l'autre, la puissance sans la miséricorde ou la miséricorde sans la puissance, Dieu serait indigne de notre confiance, incapable de garantir le salut. Mais puisque, comme le souligne David, la force est à Dieu, ainsi que la bonté, l'amour inébranlable, il n'y a personne d'autre que Dieu qui soit digne de notre confiance. Une confiance en lui seul, une confiance en lui pour toujours, une confiance en lui et non en l'homme. Un commentateur résume de cette manière: l'homme qui met sa confiance en Dieu et son zèle pour obéir à sa parole trouvera la miséricorde de Dieu pour pardonner sa transgression et la puissance de Dieu pour le soutenir dans toutes ses difficultés, pour accomplir toutes les promesses faites à ses serviteurs. Et David conclut au verset 13 en disant: car tu rends à chacun selon ses œuvres. Or, ce verset n'affirme pas que David espère être justifié par ou mériter le salut par ses œuvres. Une telle perspective contredirait tout ce qu'il a déjà dit dans le psaume. Mais au lieu de cela, il souligne simplement qu'à la fin, Dieu fera la restitution de tout ce que l'homme a mal fait. Il jugera chaque péché qui n'aura pas été lavé par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et bien qu'il y ait des détails, des problèmes persistants dans l'expérience de David, comme le montrent les hommes méchants qui cherchent à le détruire, il sait que Dieu va juger toutes choses au jour, au dernier jour. Dieu justifiera tous ceux qui cherchent le salut en lui seul. Et on trouve une raison ici, une dernière raison de faire confiance à Dieu seul et à Dieu pour toujours, sans compter sur l'homme. On fait confiance à Dieu parce que lui seul donne une espérance certaine. Et parce qu'il a révélé de manière irréfutable à la fois sa puissance, mais aussi son amour, fidèle à l'alliance. On s'engage aussi envers Dieu parce que son jugement attend tout le monde à la fin. L'insistance de David pour que Dieu juge chaque homme selon son œuvre est réitérée dans le Nouveau Testament. Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et à la lumière de cette réalité, l'apôtre Pierre écrit en 2 Pierre 3, verset 11 à 13, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. » En d'autres termes, en tant que croyants, qui ont confiance en Dieu seul, qui sont conscients du jugement à venir, on place notre espoir, non pas dans le sable glissant de ce monde qui passe, mais sur le rocher qui, lui, ne sera jamais ébranlé. On ne cherche donc pas l'approbation et l'aide d'hommes pécheurs qui sont eux-mêmes condamnés, mais on cherchera l'aide du Dieu de grâce, qui nous a déjà rachetés par le sang de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En considérant nos nombreux besoins, l'apôtre Paul écrit en Romains 8, verset 32, « Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Par conséquent, en regardant vers Dieu par Jésus-Christ, le croyant le voit comme le seul en qui nous devons avoir confiance, en qui nous pouvons avoir confiance. C'est dans l'œuvre expiatoire parfaite de son Fils Jésus-Christ que Dieu est notre rocher, notre salut, notre forteresse, notre espoir, notre gloire. Et par conséquent, dans les tempêtes de cette vie présente, exhortons notre cœur, notre âme à nous attendre à Dieu uniquement, seulement. Réfugions-nous dans la forteresse de salut en Jésus-Christ, en sécurité sur le rocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous traverserons le jour de la colère pour entrer dans cet âge éternel, immuable, sans fin, cet âge de gloire qui est encore à venir, et dans lequel, comme David, nous pouvons nous réjouir et dire « Nous ne chancellerons jamais par la grâce de Dieu. » Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.